Nous sommes ravis de t'accueillir au Salon Albert Mollard pour une rencontre avec le public et une partie de mes étudiants consacrée à ton dernier livre, Une enfance de rêve.
C'est moi qui suis très heureuse d'être ici avec vous.
Merci à toi. Toi et moi, nous nous connaissons depuis 2012. Je t'ai reçu pour la première fois à Bordeaux en 2004 avec notre amie commune, l'écrivaine Judith Broust, à l'occasion d'un colloque dont la thématique était « Modèle, fantasme et intimité ». Lequel colloque s'est tenu dans l'un des deux amphithéâtres de dissection, tu dois t'en souvenir.
Oui, je m'en souviens.
Lesquels
très
sont
bien.
Classés de l'ancienne
Nous
faculté.
Nous avions été disséqués un peu
absolument,
d'une certaine façon.
Absolument. Oui. Pour l'assistance de ce soir, très nombreuse, je voudrais rappeler rapidement ton parcours. Tu es une critique d'art importante. Ton ouvrage L'art contemporain en France est un texte de référence que connaissent bien, notamment les étudiants en art et en histoire de l'art. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'apprécier tout particulièrement le magnifique « Dali et moi » que tu as publié en 2005. Tu diriges Art Press, dont nous avons fêté les 40 ans il y a peu. Art Press joue depuis sa fondation un rôle de défricheur, de découvreur. Et au fil des ans, cette publication est devenue à bien des égards une référence. Non qu'Art Press ait le souci d'imprimer une quelconque ligne esthétique, j'ai plutôt ici en tête la volonté de la revue, la volonté des rédacteurs et de l'ensemble de tes collaborateurs de fournir à vos lecteurs des éléments de réflexion pour qu'ils s'orientent plus aisément au sein d'une production artistique contemporaine extrêmement riche et qui parfois même donne l'impression de proliférer en tous sens. Tu es aussi une écrivaine qui, de livre en livre, affirme une œuvre qui invite, selon moi, à la réflexion quant à ce que signifie être une femme à la charnière du XXe et du XXIe siècle. C'est ainsi qu'en 2001, tu as publié « La vie sexuelle de Catherine M. », dont le retentissement découle d'un projet jusqu'alors jamais mené à bien par quiconque, celui d'écrire une autobiographie qui ne tiennent compte que de ta vie sexuelle. Puis, en 2008, tu as publié « Un jour de souffrance », relatant trois années terribles durant lesquelles tu as été la proie de la plus vive jalousie. Ces deux premiers ouvrages esquissaient un autoportrait, sans concession ni complaisance, d'une femme. Au premier abord, cet autoportrait paraissait paradoxal. En réalité, avec lucidité et sans gommer la douleur que tu en ressentais, tu y as affiché dans ces deux livres qu'en assumant les contradictions qui découlent d'une part de l'exigence radicale de liberté et d'autre part de la reconnaissance totale du lien amoureux, tu te heurtais à tes propres limites. Et, il y a quelques mois, en 2014, tu nous as donné une enfance de rêve, comme si, après avoir décrit et analysé ta sexualité et les ressorts de ta vie affective, il était nécessaire de préciser le processus par lequel le sujet que tu es s'était construit, ce qui commande d'examiner non seulement les années de formation, mais aussi les premiers pas de l'enfance. Tout au long de notre entretien, ce soir, je m'adresserai à toi comme tu aimes qu'on le fasse, c'est-à-dire en faisant entendre dans la prononciation de ton nom, l'écho de la voix de ton père, disant le nom de ta famille. Tu appartenais, ta famille appartenait depuis le 19e siècle, et à la suite d'une erreur d'un employé d'état civil, au millet, non pas au millier, celui dont raffolent les oiseaux. Parce que peut-être les tiens, ta famille, ainsi que ton père le proclamait par taquinerie, les tiens sont mi-beau, mi-lait. Chère Catherine Millet, je me suis demandé si, à travers cet attachement au nom du père, tu n'exprimais pas une détermination singulière à dire la vérité sur le monde et sur toi. Une vérité que tu voudrais dire toute, mais dont tu sais intimement et intellectuellement, parce que tu n'en es pas dupe, qu'il est impossible de la dire toute, la vérité, car les mots y manquent, et que la langue nous voue en permanence et simplement à un midi. Alors, ma première question sera celle-ci. Tout ton effort d'écrivaine pour te raconter, tout cet effort viserait-il à surmonter la déficience constitutive des langues?
Waouh. Bon, ben on nous a mis une grande table, ça tombe bien, on va pouvoir s'étaler, étaler le discours. Bon, comment répondre à une telle question? Moi, je vais répondre par quelque chose de, enfin, une remarque très pragmatique. Je fais des phrases assez longues. Pas toujours. J'ai essayé de me corriger parce que, à la suite de la publication de Jours de souffrance, plusieurs personnes, bien sûr, et puis notamment des critiques, et notamment un critique que je respecte beaucoup, avait dit « Oh, quand même, ces phrases un peu longues, c'est un peu trop proustien. » Et je me suis dit « Oui, c'est vrai, il a raison, il ne faut pas rester comme ça, trop sous l'influence de ces lectures, même si ce sont de très bonnes influences et de très bonnes lectures. » Et donc, pour le nouveau livre, j'ai essayé de me corriger. Mais néanmoins, c'est vrai que j'aime... tourner autour de l'objet, y revenir. Alors, ça peut être avec une phrase très, très longue, mais ça peut être aussi avec plusieurs phrases, bien sûr. Et quand je tarde, d'ailleurs, à remettre mon manuscrit, mon éditrice me dit « Arrête de creuser comme ça, arrête de creuser, c'est suffisant comme ça. » Bon. Donc, c'est vrai que c'est un défi qu'on doit relever à chaque fois, d'essayer d'attraper cette vérité à laquelle on met évidemment plein de guillemets, mais à laquelle on ne renonce pas toutefois. Et j'ai souvent dit que pour moi, c'est quelque chose qui s'apparentait au travail, puisqu'on emploie le mot en analyse, le travail qu'on fait en analyse, où on sait très bien que la première parole n'est jamais celle qui restitue au plus près le souvenir, le trauma, mais qu'il faut y revenir et re-raconter comme ça l'histoire une nouvelle fois et deux nouvelles fois pour essayer de s'en approcher néanmoins. Et en fait, souvent, d'ailleurs ça aussi c'est une leçon de l'analyse, bien souvent, et je dirais que ça rejoint l'expérience que je raconte dans Jours de souffrance, bien souvent l'analyse ramène une vérité qui n'est même pas dite. C'est-à-dire qu'on a la parole a tourné autour pendant des mois, voire des années, et puis un jour, ce qu'on cherchait surgit comme ça, depuis l'inconscient jusqu'au conscient, et à ce moment-là, les mots ne sont plus tellement nécessaires pour dire ce qui vous arrive. La chose est réglée. La souffrance qu'on avait enterrée, et ben voilà, on l'a apaisé en quelque sorte, et sans que là, à nouveau, les mots soient nécessaires. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'analogue dans le travail de l'écriture, en fait. On se donne un programme. Celui que je me suis donné, par exemple, pour Une enfance de rêve était très très simple. Je voulais raconter la petite enfance. Voilà. Je ne voulais pas simplement raconter l'enfance, et souvent d'ailleurs l'enfance, c'est la préadolescence ou l'adolescence. Je voulais vraiment essayer de remonter très très en amont. C'était ça mon seul projet. Et puis évidemment des souvenirs très lointains et des souffrances très enfouies, on met du temps à les exhumer, et c'est ce qui est arrivé avec ce livre, ce qui veut dire que en fait, on ne devrait pas dire qu'on écrit, on devrait dire qu'on réécrit. On réécrit tout le temps. Moi, je réécris tout le temps. C'est pour ça que j'écris peu et en prenant beaucoup de temps. C'est parce que pratiquement en permanence, bien sûr, le livre avance dans un ordre qui n'est pas toujours chronologique, plus ou moins chronologique quand même, disons. mais il est en permanence toujours repris depuis le début. Voilà. Et parce que voilà, c'est ma manière à moi de m'approcher de cette vérité, entre guillemets.
Si tu me permets, je risque une hypothèse. La reprise fréquente de ce que tu écris, est-ce que cela ne participe pas d'un feuilletage ? Je suis très frappé parce que dans « Jour de souffrance », comme dans « Une enfance de rêve », tu emploies « feuilleter », tu emploies cela. Et je me demande si ton écriture, souvent les critiques disent que tu as un style plutôt classique, plutôt maîtrisé, plutôt rigoureux. Je me demande s'ils te lisent bien, parce que, notamment avec une enfance de rêve, ce que tu viens de dire, tu t'es attaqué à quelque chose qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire de parler de la petite enfance dont la plupart d'entre nous n'avons pas de souvenir. Donc, il ne suffit pas de dire que ce souvenir, c'est imaginé. Il ne suffit pas de dire que ce souvenir implique de reconstituer l'enfance. Mais il s'agit d'aller au-delà de cela. Et ce qui me frappe beaucoup, nous ne sommes pas concertés tout à l'heure, cette écriture dont on dit qu'elle est classique, elle me fait penser à ce qui se passe pendant l'analyse sur le divan, c'est-à-dire d'une parole qui est en association continuelle et permanente. Et du coup, tes livres ne sont pas du tout linéaires. Ça, c'est une lecture hâtive, pressée, qui donne l'impression de la linéarité. Parce qu'à tout moment, si j'ose dire, il y a un mot que j'emprunte à Barthes, l'écrivaine, les lecteurs, nous sommes obligés de lire en levant la tête, en levant les yeux, parce que nous décrochons en permanence.
Et ah bah zut alors, c'est pas...
Non, nous décrochons parce que précisément, peut-être que tu associes, et ça t'incite à revenir sur ce que tu as écrit, à reprendre, à remanier, et nous lecteurs, ta lecture nous incite à méditer, à réfléchir, à nous interroger. Et donc du coup, la linéarité est complètement perturbée.
Bah, moi, en tout cas, ça me fait très plaisir ce que tu dis là, parce que c'est vrai, je ne sais pas si c'est pour tous les auteurs pareil, mais c'est vrai que moi, j'écris avec quand même... je suis en transfert, puisqu'on continue à parler d'analyse, et je ne suis pas là avec un analyste, je suis avec les lecteurs virtuels quoi, du livre. C'est-à-dire que j'écris avec aussi l'idée de l'écho que ce que je suis en train de dire sur moi-même peut avoir chez mon lecteur. Je dis souvent que rien ne me plaît plus. Je suis avide de recevoir des lettres parfois où les gens se font l'écho de ce qu'ils ont lu dans mes livres et me racontent leur histoire à eux, qui n'a pas forcément un rapport direct avec la mienne, mais je suis très, très avide de ça. Donc en fait, ça, si de temps en temps ce que j'écris peut renvoyer le lecteur à lui-même. D'ailleurs, je veux dire, ça devrait être l'ambition, c'est l'ambition d'un écrivain, quoi, en fait. T'écris en tant que lecteur, tu te cherches toi-même dans ce que tu lis. Donc, en tant qu'écrivain, tu imagines bien que ton lecteur est dans la même situation. Mais tu as commencé à parler du feuilletage. Alors, c'est vrai que souvent, j'utilise ce mot-là, cette image-là, pour parler, évoquer les différents niveaux de conscience qu'on peut avoir en permanence dans toutes les situations. Par exemple, en ce moment, j'entends le ding-ding là, du tramway qui passe, et je me dis, mais c'est assez perturbant pour ce qu'on est en train de faire. Puis en même temps, je dois garder le fil de ce que je suis en train de dire, et puis peut-être anticiper ce que tu vas me poser comme question. Donc il y a tous ces niveaux de conscience comme ça qui se superposent, qui s'entrecroisent. C'est ça le feuilletage, ce que j'appelle le feuilletage, et qui produit au bout du compte, je pense, les tous les aspects de nos personnalités et tous les aspects parfois contradictoires de ces personnalités. Et c'est ça, en fait, je pense que maintenant que j'ai écrit trois ouvrages autobiographiques, j'en viens à penser que j'écris, enfin c'est un paradoxe, j'écris pour me débarrasser de moi, je crois. Ne plus avoir on n'est pas obligé de me croire, mais j'écris vraiment pour me débarrasser de moi-même, consciente que je suis devenue d'être comme ça, éparpillée au travers de toutes les facettes que peut prendre une personnalité. Ce que je dis de moi, c'est vrai pour tout le monde. Je pense qu'on a... On a tort de se chercher sa personnalité. En fait, c'est une idée fausse, ça. Je pense une mauvaise interprétation de la psychanalyse a pu nous mettre dans la tête. Et je pense que nos personnes sont beaucoup plus, beaucoup moins monolithes et beaucoup plus hétérogènes que ce que l'on croit d'une façon générale, et qu'il faut se laisser aller à cette hétérogénéité, à cette dispersion. Voilà, il peut y avoir un plaisir à ça.
Je saisis la balle au bond. Tu as évoqué les trois livres que tu nous as donnés, La vie de Catherine M, Jour de souffrance et maintenant Une enfance de rêve. À bien des égards, le lecteur professionnel peut considérer que tu nous offres un triptyque. Il y aurait la chair, il y aurait la passion, il y aurait la construction du sujet. Et ce triptyque étant achevé, donc tu, en tant qu'écrivaine, tu pourrais maintenant peut-être passer à la fiction.
Mais je crois pas. Non, je pense, je ne sais pas si... Bon, moi, je ne veux pas me prendre en otage. Hein. Si je dis non, je n'écrirai jamais de fiction. Comme je suis une fille honnête, après, j'aurai plein de scrupules en me disant j'ai dit que je n'écrirai pas et j'ai envie d'en écrire. Non, je ne suis pas sûre que je sois faite pour ça. C'est-à-dire que il y a quand même de la fiction dans ce que j'écris. Et je crois que d'ailleurs ça a évolué entre la vie sexuelle et puis une enfance de rêve. Je crois que j'ai appris, aussi j'étais l'écrivain débutant quand j'ai commencé la vie sexuelle, j'ai appris à construire mon récit. Et je pense, enfin, j'ai souvent dit ça là, à propos d'une enfance de rêve. On a toujours des auteurs en tête quand on démarre un travail, il y a les lectures qu'on fait. Dans le moment et puis qui vous imprègne ou qu'on est allé chercher d'ailleurs avec certaines intentions. Et moi je lisais Balzac beaucoup quand j'ai commencé à écrire Une enfance de rêve, donc je pense que ça m'a un peu aidé à construire une sorte de récit en effet assez classique avec description des décors, attention aux costumes, et puis quand même un peu une progression dans le récit. C'est pas complètement éclaté. Donc c'est ça que je retiens de la fiction. Mais moi, inventer complètement une histoire, je suis pas sûre que j'en sois capable. Et puis que j'ai tellement envie de ça, je vais peut-être continuer à remonter dans le temps. Tu sais, Salvador Dali prétendait avoir des souvenirs de la vie intra-utérine. Peut-être qu'après utérine, après une enfance de rêve, j'ai peut-être raconté mes souvenirs de l'intérieur du ventre de ma mère.
Nous lirons ce nouveau livre avec beaucoup d'intérêt.
Là, ça sera une nouveauté aussi, hein, pour le coup.
Mais alors, pour l'instant, restons à l'enfance, à la petite enfance. Ton titre, Une enfance de rêve, bien évidemment, le titre est polysémique. On peut l'entendre de plusieurs façons.
Ouais.
La formule peut signifier une enfance exceptionnellement heureuse, comme chacun rêverait d'en avoir eu une. Le titre peut signifier une enfance qui a moins été vécue que rêvée, voire il peut signifier que l'enfance de Catherine Millet, ce qui nous est donné, c'est l'enfance que tu as rêvée en essayant de la raconter, en essayant de la restituer. Comment, toi, nous invites-tu à entendre ce titre ? Si tu nous invites à l'entendre d'une manière ou d'une autre.
Je pense que toutes ces significations que tu viens d'énumérer, elles sont assez justes. En effet, c'est sûr que entreprenant d'écrire sur la petite enfance, donc sur des souvenirs lointains, il y a forcément une part de rêve. C'est-à-dire que on reconstruit ces souvenirs très anciens, même si on a un point de départ. Moi, j'ai quand même eu le scrupule de toujours partir. Il n'y a pas tellement de souvenirs de la petite enfance que je raconte dans ce livre, parce qu'en fait, ils sont très rares, ça, j'en suis consciente. Donc, je ne me suis accrochée qu'à ceux qui avait vraiment laissé une trace assez, assez profonde. Et souvent, la trace que tu en gardes, c'est un élément du décor, c'est une parole que tu as entendue, c'est vraiment quelque chose de très mince, de très labile. C'est, voilà,
la découverte de la mer, par exemple.
À la découverte de la mer, M-E-R, oui. au travers de la parole de ma mère, accent grave, R-E, voilà, d'ailleurs.
Tu as 5 ans, je crois.
Oh, je suis plus petite que ça.
Plus petite que cela.
Ouais, je crois que j'ai à peine plus de 3 ans. Et j'ai gardé une image comme ça. Bon, alors, est-ce que cette parole de ma mère que je raconte à cette occasion-là, c'est quelque chose, comme on dit toujours, qui m'a été raconté après ou pas? En tout cas, je l'ai dans l'oreille comme ça. Bon, alors, en fait, à propos de ce livre-là, je dis toujours, j'ai été, en tout cas, fidèle à mes souvenirs tels qu'ils m'habitent. Bon, et évidemment, ma mère n'est plus là pour que je puisse vérifier si, en effet, ce que je raconte est tout à fait exact. Bon, mais voilà, ça veut dire qu'il y a une part rêvée, en fait, dans ce récit. Il y a bien sûr l'idée que j'étais habitée par les rêves, parce que j'étais une petite fille qui avait besoin de s'échapper dans la lecture, et qui, à partir de ces lectures, bâtissait d'autres vies dans lesquelles elle s'imaginait. Ça aussi, c'est évidemment une signification très, très évidente. Et puis, je pense que tu as suggéré quelque chose qui est assez juste. Je me suis rendu compte, et ça c'était en écrivant les dernières pages de Jours de souffrance, c'est que, ce livre s'appelle Jours de souffrance. Après tout, le titre pourrait être aussi valable pour une enfance de rêve, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait souffrir lorsque j'étais enfant. Et en fait, raconter sa vie, y compris les choses les plus douloureuses qui vous en restent, c'est quand même, à partir du moment où c'est pas simplement raconté sur le divan du psychanalyste, mais que ça devient un livre, ça devient un objet esthétique, en fait. Et donc, on transforme, on métamorphose quelque chose qui a été douloureux, qui nous a marqué, peut-être même traumatisé, parfois durablement, on le transforme en un objet qui prétend à la beauté, qui prétend, moi je suis sensible au beau style, comme ça, j'aime pas lire un livre qui n'a pas un beau style, bon. Et moi, quand j'écris, je m'efforce de bien écrire, comme on dit, de joliment écrire, de faire de belles phrases, donc on transforme ce qui a été une souffrance en un objet qui est au contraire un objet agréable. Voilà. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite en écrivant vraiment les dernières pages de Jours de souffrance, où d'ailleurs ça avait été tellement même douloureux de se remémorer les épisodes racontés dans ces pages. Et finalement, j'arrivais au bout de ce travail et j'arrivais avec un sentiment de satisfaction, de bonheur presque, de me dire mais en fait toute cette souffrance s'efface derrière l'objet que j'ai produit moi, ce que j'en ai fait dans les pages que je viens d'écrire. Et finalement, ça devient comme du roman, agréable à lire. Et bien sûr, l'histoire peut être triste, mais en même temps, un roman, c'est un objet agréable quand même. Bon, c'est quelque chose qu'on aime. Et voilà. Et en fait, quand j'ai entrepris une enfance de rêve, j'avais cette idée en tête que j'étais en train de transformer un morceau de ma vie, avec ses bonheurs et ses malheurs, en un objet esthétique. Et je pense que ça fait partie de mon projet, en fait. Voilà, que je me rends compte que voilà, c'est comme ça que, en tout cas, aujourd'hui, je définirais le travail que j'ai entrepris.
Si je te comprends bien, je pense que ton travail d'écriture a une portée, une visée esthétique. Il ne s'agit absolument pas de thérapie, il ne s'agit pas d'aller mieux du tout. Non. Il s'agit véritablement de faire œuvre d'art. Et nous sommes dans un processus où les mots de l'existence, les mots de l'enfance, deviennent le matériau de la beauté. C'est un mécanisme de sublimation.
Bah oui, on peut dire ça comme ça.
Je dis cela parce que dans ton livre, tu écris que tu as, à bien des égards, tenu le rôle de l'enfant d'un couple désuni.
Oui.
Et par exemple...
Ah oui, que j'ai joué le rôle, j'ai surjoué. Oui. J'ai surjoué, c'était une façon de...
De te défendre.
De me défendre. Je crois qu'il y a deux manières de réagir aux malheurs de la vie, aux épreuves de la vie, pour employer une expression toute faite. C'est soit de se dire « je suis une victime » et de s'enfoncer dans le rôle de la victime, soit de se dire je vais jouer le rôle de la victime et même je vais le surjouer, je vais l'exploiter et ça va me servir dans la vie, dans ma négociation avec la société. Et moi j'ai compris ça très vite, c'est peut-être ce qui m'a d'ailleurs en partie sauvée, je ne sais pas si j'avais besoin d'être sauvée, mais enfin ce qui m'a aidée en tout cas dans la vie, c'est que tout de suite à l'école j'ai compris que si je racontais d'une manière humoristique les bagarres entre mes parents, ça faisait d'une part de moi aux yeux des parents de mes petits camarades une petite fille méritante, parce qu'on disait oh la pauvre, avec tout ce qu'elle subit à la maison, c'est bien qu'elle soit aussi bonne élève et tout ça. Bon, et puis en même temps ça me valorisait aux yeux de mes petites camarades, donc j'ai surjoué mon rôle et ça a été une façon en effet de sans doute mieux supporter cette désunion de mes parents qui alors pour le coup me faisait souffrir. Oui.
J'imagine que quand tu as commencé à écrire ton livre, tu as réuni autour de toi de la documentation. Dans ton livre d'ailleurs, tu parles de photographies, de plusieurs dizaines de photographies de ta mère, de ta mère, de Simone pendant la guerre.
Oui.
Tu dis que tu les scrutes, tu les examines, et c'est à partir de ces à la loupe, effectivement. Et c'est à partir de ces photographies-là qui joue un rôle d'embrayeur, peut-être, dans ton écriture, que tu reconstitues le parcours de tes parents.
Oui, moi je crois que on peut pas partir de rien. Je pense que, je sais pas, on citait Balzac tout à l'heure. Balzac, il avait une documentation aussi. Tous les écrivains sérieux partent d'une documentation. Et donc la mienne, c'était deux caisses que j'avais gardées après le décès de mes parents. Il se trouve que ma mère avait gardé beaucoup de mes cahiers d'écolière, qu'on était une famille, je pense comme toutes les familles comme ça de l'après-guerre, où il y avait un usage très important du Kodak et on n'arrêtait pas de se prendre en photo pendant les vacances, aux anniversaires, etc. Bon, donc il y avait des montagnes de photos. Il y avait aussi des photos très anciennes d'ailleurs de la génération de mes grands-parents. Il y avait plein de correspondances que ma mère avait gardées. Elle avait gardé toutes les lettres que nous avions échangé pendant les vacances, mon frère et moi, avec mon père et ma mère. Bon, enfin, il y avait beaucoup de matière comme ça. Et c'est vrai que ça aidait au démarrage de l'écriture. Et puis, ça oriente aussi. Moi, je voulais. Il y a un premier chapitre qui donne une part assez importante à l'histoire de mon père et de ma mère avant même ma naissance, mais qui peut quand même expliquer un peu ce qui était devenu l'ambiance familiale pendant que j'ai grandi. Et c'est sûr que les photos que j'ai retrouvées, là, du coup, pour la première fois, j'ai regardé ces photos et j'ai commencé aussi à comprendre quelque chose sur eux, en fait, sur ce qui avait pu se passer entre eux, même si je l'avais un peu supposé, si j'avais recueilli des éléments. Mais c'est sûr que les photos, là, avaient une force d'évidence, je dirais, des choses m'ont sauté à la figure, comme ça, m'ont vraiment sauté à la figure. Tu fais allusion à ça et je peux en dire deux mots, parce que je trouve que c'est j'ai montré ces photos à un de mes collaborateurs à Art Press, Étienne Hatt. C'est Étienne qui a fait l'entretien avec moi pour le journal à propos de ce livre. Il se trouve que c'est un spécialiste de la photo et il était en admiration devant ces petites photos comme ça pendant l'occupation, alors que mon père était retenu prisonnier en Allemagne. Ma mère a sûrement eu une aventure avec un homme, et elle se faisait photographier. Il devait faire des promenades dans le jardin des Tuileries, comme ça, sur les quais, au bord de la Seine. Et on sent vraiment qu'elle s'habillait pour cet homme, parce qu'elle n'a jamais ou presque jamais la même tenue d'une photo à l'autre, alors qu'il y en a plusieurs dizaines. Elle change de chapeau à chaque fois, elle est extrêmement élégante, et voilà. Et elle pose exactement comme un mannequin poserait, debout, assise, un peu allongée sur la pelouse, les jambes croisées, enfin c'est... Elle prend vraiment la pose comme ça, elle s'affiche quoi, en quelque sorte, dans cette jolie tenue, et elle s'affiche manifestement pour le regard d'un homme, parce que j'imagine pas que c'était sa collègue de bureau qui prenait les photos. Donc voilà, et tout d'un coup ça m'a ouvert quelque chose comme ça. C'est fou à dire, mais on comprend ses parents longtemps après leur mort, hein.
Si tu me permets, tu parles donc de ta mère, de Simone, de ton père, Louis. J'ai trouvé, en tant que lecteur et en tant que père, j'ai trouvé que tu rends un magnifique hommage à ton père. Louis est capturé, il est prisonnier dès le début de la guerre, en 40. Son unité se bat du côté de Sedan. Il est fait prisonnier, il est détenu en Ukraine, puis au bord de la Baltique, près de Stettin. Stettin, qui est en Pologne.
Ouais.
À l'époque, c'était la Prusse.
Oui, oui.
Il reste en captivité 5 ans. Et il y a une scène, je ne sais pas si on te l'a raconté, je crois que ton père te l'a raconté. Il y a, de mon point de vue, je ne t'interroge pas, vraisemblablement, chez l'écrivaine que tu es, une part de fictionnalisation.
Bien sûr.
Une scène qui m'a beaucoup ému, c'est quand, en 1945, Louis revient, il retrouve le domicile conjugal à Bois-Colombes, il monte les escaliers et à ce moment-là, il croise son épouse, il croise Simone, et elle lui dit « Tiens, te voilà ». Et ils se croisent. Et symboliquement, tout est dit.
Oui, alors, quand même, bien sûr qu'il y a une part de fiction, elle est dans le décor. Tu vas voir quand même à quel point je suis honnête. C'est que je le dis, je crois, dans le texte. Je dis, j'imagine que la scène a eu lieu à cet endroit-là. Voilà. Alors, le bref échange entre deux, en effet, c'est mon père qui me l'a raconté à un âge où j'étais adulte. Donc, j'avais un souvenir quand même assez clair de cette conversation et de ce récit qu'il m'avait fait. En effet, il rentre... Et voilà, ils ne se sont pas vus depuis plus de 5 ans. Et elle part au bureau, et ils se croisent dans l'escalier, et elle lui dit « Te voilà, toi ». Voilà. Et donc, mon père m'avait raconté cette scène. Donc, ils étaient séparés depuis déjà pas mal d'années à cette époque-là. Et c'était une façon pour lui de me dire, tu me comprends, tu comprends pourquoi, finalement, j'ai quitté le domicile conjugal, en quelque sorte. Bon, après tant d'années, bon. Et en fait, pour raconter la scène, j'ai essayé d'imaginer, puisque j'avais connu, en fait, on continuait de vivre dans un immeuble qui n'était pas exactement celui où s'était déroulée cette scène, mais qui est un immeuble jumeau. Donc je pouvais m'imaginer l'escalier, la lumière dans l'escalier, puisque je l'avais pratiqué pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que j'ai choisi de situer la scène à cet endroit-là. Et pourquoi je l'ai situé, c'est ce genre de choses, en effet, qui sont irréfléchies dans l'écriture. On trouve que c'est bien situer la scène là, de choisir ce décor. Pourquoi ? Parce que cet emplacement précis figure ailleurs dans le récit. Rétrospectivement, je peux me dire, ah bah oui, il y a un autre moment dans le récit où il se passe quelque chose au niveau de ce palier, comme ça, dans l'escalier. Et voilà, spontanément, je sais pas, est-ce qu'il y aurait un rapprochement à faire entre les deux scènes ? J'en sais rien, mais voilà, je pense que ça, c'est ce genre de choses, oui, pour le coup, qui appartiennent vraiment à la fiction. J'imagine qu'un romancier, lorsqu'il invente ses histoires, il a toujours une bonne raison de choisir tel décor plutôt que tel autre, et que ça, ce choix-là, c'est un choix, à mon avis, chez un romancier digne de ce nom, est quelque chose qui est incontrôlé au début. Je pense que c'est quelque chose qui vient des profondeurs, qui vient de l'inconscience. C'est pas quelque chose qu'on a décidé. On n'est pas un décorateur de théâtre. On n'est pas en train d'illustrer la scène dans laquelle les acteurs vont devoir échanger des paroles. Je crois qu'on est dans quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, comme ça, dans l'imagination.
Alors, ta famille, il y a le père, la mère. Tu es né, non pas à l'hôpital, non pas en clinique, mais tu es né au domicile familial. Mm-hmm. Tu ne peux pas t'en souvenir, mais ta mère le disait.
Oui, oui, ça, je ne peux pas m'en souvenir, là.
Voilà. Tu avais un frère.
Mais, je connaissais l'endroit.
Ah.
Bah oui. Je savais où était le lit, il n'avait pas bougé depuis. Voilà, je pouvais reconstruire la scène quand même.
Tu es né dans un appartement, c'était un deux pièces. Mm-hmm. Vous étiez cinq. Mm-hmm. Le père, la mère, ton frère, toi, ta grand-mère.
Oui.
Sorte de huis clos.
Oui. Enfin, c'est un huis clos. Non, il y avait de la famille qui passait quand même. Il y avait, enfin, oui, c'est cinq dans deux pièces, on est assez serré quand même.
Une certaine promiscuité.
Oui.
Vous avez déménagé pour l'immeuble mitoyen. C'était un peu plus grand.
Oui.
À peine plus grand.
Une pièce en plus. Et une salle de bain, parce qu'en fait, c'est une chose qu'on a... Je parlais de ça avec quelqu'un, on a oublié, les gens de ma génération, beaucoup d'appartements, y compris dans des immeubles qui étaient des immeubles bien, il n'y avait pas de salle de bain. Et il y avait les toilettes sur le palier. Bon, ce n'était pas le cas chez nous, mais beaucoup d'immeubles voilà, bourgeois n'étaient pas équipés vraiment en salle de bain, quoi, à l'époque.
Et quand tu évoques ta petite enfance, ce qui m'a beaucoup touché... Je l'exprime peut-être dans le désordre. Plusieurs éléments m'ont intéressé. Tu évoques la question du corps de la mère. Hein, quand tu dis que le plus loin qu'on puisse remonter, l'enfant devenu adulte ne peut pas se souvenir de son corps. Les souvenirs qui viennent à lui, c'est le corps de l'autre. La première chose. Tu évoques cette période... De transitoire où l'enfant n'a pas les mots pour désigner, pour faire apparaître à la conscience les sentiments de joie, de chagrin ou de colère qu'il peut éprouver. Tu évoques le moment où l'enfant, pour se représenter les choses, a besoin d'avoir vu d'autres représentations, ouais, antérieures à celle-ci.
Oui, oui.
Tout cela me paraît extrêmement important.
Bah, en fait, c'est, C'était ça au début mon projet. Quand j'ai dit tout à l'heure que je voulais raconter la petite enfance, c'est parce que sincèrement, je m'interrogeais, je m'interroge toujours parce que je ne suis pas sûre d'avoir répondu à ces questions dans le livre vraiment. Je m'interroge sur qu'est-ce que c'est les... on parlait de la psychanalyse. Nous sommes des lacaniens, nous sommes entre lacaniens là. Et donc le langage nous structure. Et donc qu'est-ce que c'est qu'éprouver des sentiments lorsque on n'a pas encore... la maîtrise du langage, lorsqu'on ne connaît pas les mots que l'on pourrait mettre sur les émotions que l'on ressent. Donc, bon, alors je ne sais pas, sans doute les professionnels, les pédiatres, tout ça, les psychanalystes spécialisés dans l'enfance doivent avoir une opinion là-dessus. Mais en tant qu'individu, comme ça, personne, voilà, je n'ayant pas cette culture, je me pose vraiment la question de ce que c'est. De même que, en effet, comment se bâtit-on un imaginaire lorsqu'on n'est pas encore vraiment sorti du milieu dans lequel on est né, en fait, avant d'avoir été transporté pour la première fois au bord de la mer? Qu'est-ce que le mot mer peut évoquer lorsqu'on l'entend comme ça? Donc, en fait, j'ai ces interrogations très, très simples et qui sont parties, d'ailleurs, je peux le dire, je ne sais pas si c'est intéressant. J'avais un ami éditeur iranien m'avait demandé de préfacer un livre de photos de Kiarostami. Et moi, j'adore le cinéma de Kiarostami et aussi ses photos. Je trouve qu'il fait des photos magnifiques, très abstraites, en général sans personne dans l'image. Et ce livre, c'était un livre sur les portes et les fenêtres, et toujours prises les photos depuis l'intérieur de la maison. Et donc, à contre-jour, en fait, c'était des images de contre-jour. Et donc, simplement, il y avait à chaque fois, sur chaque image, cette percée de la fenêtre ou de la porte donnant sur la lumière. Et en écrivant cette préface, je me suis dit, mais c'est curieux, c'est une approche quand même de ce qu'est sans doute peut-être la sensation à la naissance. On sort d'une obscurité totale et on arrive dans une pleine lumière. Et je comprends que s'il y ait des cris comme ça du nouveau-né, parce que ça doit être une agression terrible, cette lumière. Et tout d'un coup, cet espace qui s'élargit et dont on ne connaît pas les limites encore. Bon. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup troublée d'écrire sur ces images. Et je pense que, en partie, l'envie de d'écrire sur la petite enfance vient de ce texte que j'ai écrit à cette occasion, en fait.
Je voudrais rebondir sur la question du rêve, parce que dans ton livre, tu dis que quand on est adulte, le rêve rétrécit l'espace de l'adulte, alors que lorsqu'on est enfant, le rêve élargit l'espace.
Ah oui ?
Oui, oui.
On oublie ce qu'on écrit. J'ai dit, on s'en débarrasse. Hein. Oui, on rêve. Je crois qu'on... Oui, je ne sais plus ce que j'ai voulu dire à ce moment-là, mais je suppose que lorsqu'on rêve enfant, on rêve de son avenir, essentiellement. On rêve beaucoup de son avenir. Ce que je vais devenir quand je serai grand, donc quand je serai libre, en quelque sorte. Bon. Et les rêves de l'adulte doivent souvent constater, hélas, les limites qu'on a données à sa propre vie, quoi.
Et peut-être, enfin, dans ma question, ce qu'il y avait de sous-jacent, c'est que dans ton parcours, et peut-être dans le parcours d'autres enfants, peut-être de tous les enfants, le roman familial, ce que j'appelle la fabrique à fantasmes, constitue l'un des moteurs de la construction de soi. Mm-hmm. Et que le rêve éveillé, la projection, permet au sujet d'hybrider en quelque sorte l'image qu'il peut avoir de lui, l'image qu'il entend donner de lui et l'image qu'il reçoit des autres.
Oui, oui, bien sûr, ça c'est juste, mais est-ce que... mais ça, c'est pour expliquer le rêve de l'enfance.
Oui.
Oui. Et alors, d'après toi, qu'est-ce que je voulais dire avec les rêves de l'adulte ?
Alors, je dis à mes étudiants que quand on lit un auteur et quand on lit le livre d'un auteur, il faut surtout ne pas chercher à vouloir discerner ce que l'auteur a voulu dire. Hein, je passe mon temps à dire cela. Non, je n'esquive pas, et c'est alors... une position de principe.
Et quand l'auteur lui-même ne sait plus...
Bon, alors non, on mais passe à une autre question.
Oui, non, je pense que j'ai peut-être... Enfin, j'ai dit un peu comme je l'entendais maintenant. Ouais, bon.
Il me semble peut-être aussi que quand l'enfant n'a pas tous les mots, il y a une part d'intuition dans la connaissance, dans sa découverte du monde.
Oui.
Parce que tes parents se sont séparés après, je crois, 35 ans d'union.
Oh oui, enfin, on était adultes.
Voilà.
Oui, mon frère et moi, oui.
Ils se sont séparés après la disparition de ton frère.
Oui.
C'est la disparition de ton frère qui a provoqué cette décision.
Oui. Hein,
juste après les obsèques,
oui.
Ils se sont séparés. Il m'a semblé, si j'ai bien lu ton livre, il y a eu notamment un déjeuner du côté de la vallée de Chevreuse avec ton père.
Oui.
Où ton père t'a fait une confidence.
Oui.
Disant... Philippe n'était pas mon fils.
Oui.
Et tu écris que tu t'es tu, mais que tu le savais.
Oui.
Tu le savais depuis longtemps, depuis toujours ?
Je ne le savais pas depuis toujours. Disons que nous le supposions, mon frère et moi. Voilà. Voilà, on avait eu des signes de ça. Alors, ma mère a fini par être explicite à ce sujet, et j'avoue que je ne sais plus si c'était avant ou après la mort de ce frère. Mais en fait, ta remarque sur l'intuition, ça m'amène à évoquer d'autres choses. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de relever dans ce livre les petits signaux sexuels qu'on reçoit lorsqu'on est encore enfant ou à peine adolescent, qu'on ne saurait pas interpréter parce qu'on, enfin surtout pour ma génération, les connaissances qu'on avait dans le domaine de la sexualité étaient vraiment très 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 minces, quoi. Enfin, on nous apprenait pas grand chose, il y avait pas grand chose qui transparaissait dans les journaux, dans ce qu'on pouvait lire et tout ça. Donc, on n'était pas très renseigné sur la question. Et néanmoins, moi, je me rends bien compte qu'il y a des choses. Des souvenirs, des petits signes infimes comme ça qui se sont imprimés dans ma mémoire parce que c'était des signaux sexuels et que je n'étais capable de les interpréter que bien longtemps après. Et en fait, pour certains, je les ai compris en tant que tels qu'au moment où ils me sont revenus en mémoire pendant l'écriture du livre. Et pour donner un exemple... J'étais encore une petite fille et ma mère avait décidé de m'inscrire à la garderie du jeudi. À l'époque, le jour de congé dans la semaine pour les enfants, c'était le jeudi. Et donc, elle décide d'aller m'inscrire et on va à l'école où se tenait cette garderie. On est reçu par le jeune instituteur qui était le moniteur ce jour-là. Et il est venu vers nous avec une petite fille de mon âge accrochée à lui, comme ça, comme les enfants s'accrochent des fois à un adulte. Elle était, comme on dit, pendue à son bras, comme ça. Et j'ai le souvenir de cette petite fille que j'avais trouvée un peu sournoise, qui me regardait par en dessous et qui restait accrochée comme ça à ce moniteur de garderie. Et pourquoi ce souvenir est resté toujours très prégnant comme ça, alors qu'il a joué aucun rôle? Je ne suis jamais allée d'ailleurs dans cette garderie où on m'avait inscrite. Je n'ai jamais revu ni cette petite fille, ni ce moniteur. Bon, pourquoi ça s'était aussi fortement inscrit en moi? Et je pense que j'ai perçu, sans pouvoir le nommer en tant que tel, j'ai perçu quelque chose d'une relation particulière entre cette petite fille et ce moniteur. Peut-être la petite fille, elle était amoureuse de son moniteur, elle restait accrochée, elle voyait, elle aussi sans doute inconsciemment, une rivale dans cette nouvelle petite fille qui arrivait. Enfin bon, tout ça, c'est de l'interprétation comme ça, un peu vite fait. Mais en tout cas, pour moi, je suis sûre que ça avait été un signe sexuel, sauf que je n'étais pas capable de le désigner en tant que tel sur le moment. Quoi.
Je fais écho à ton propos. Dans ton livre, tu écris « Quel savoir enfoui, quel héritage atavique nous permet d'identifier infailliblement, avant d'en connaître la fonction véritable, ces indices microscopiques, ces appels subliminaux, ces phéromones recueillis l'espace d'une fraction de seconde et dans les situations les plus banales, et de les enregistrer durablement au point que nous les faisons remonter en surface bien des années après, et à ce moment-là seulement les interprétons, mais encore dans une semi-conscience, pour ce qu'ils sont, de puissants signaux sexuels dont nous avons été les récepteurs très ciblés. Selon quelle voie sinueuse vont se propager les ondes qu'ils émettent pour, au final, orchestrer nos fantasmes d'adultes ?
Mmh. Oui, mais ça... c'est drôle parce que... je ne sais pas si je le dis ça dans après.
Dis-moi, je te le dirai.
j'ai ce souvenir s'est inscrit en moi et assez longtemps après, un des fantasmes que je me racontais comme ça pendant mes séances de masturbation se passait dans ce décor de garderie, d'école, comme ça. Donc en fait, je pense que c'est ressorti sous cette forme fantasmatique des années plus tard, quand j'ai découvert les plaisirs de la masturbation.
Alors, il y a quelque chose à propos de quoi je voudrais t'entendre. Tu connais mon nom, hein, Devesa, Debesa. Les yeux noirs, écris-tu, les yeux noirs allaient bien avec le type espagnol. J'avais beau savoir que mes grands-parents paternels étaient de la Corrèze et que mon père n'était né en Espagne que par le hasard d'une affectation de mon grand-père, sous prétexte que j'avais la peau mate et que j'étais brune, j'échafaudais le roman pour moi-même et quelques camarades de classe d'une ascendance hispanique. Et ça plaisait beaucoup à Simone que sa fille soit typée. Elle s'extasiait devant sa peau si vite tannée dès les premiers jours de vacances et elle ne l'habillait guère qu'en rouge, la couleur qui allait aux brunes, et en blanc pour l'effet mouche dans un bol de lait.
Bon.
Tu as joué là aussi et tu as surjoué l'hiver.
Oui. Oui, pendant l'enfance. Ça, j'ai quitté le rouge. Mais... Oui, et en fait même, allons jusqu'au bout, s'il faut, si tu veux me faire cracher. En fait, ça a même été assez douloureux d'abandonner, parce qu'un jour, j'ai bien sûr, c'était un fantasme, et c'était un fantasme que me renvoyait ma mère, qui correspondait au sien aussi, et elle m'a donc sans doute entretenue là-dedans. Et le jour où j'ai découvert quand même assez vite que j'étais pas si typée que ça, et que mes yeux étaient peut-être pas si noirs, et que j'avais peut-être pas la peau si mate, et que je pouvais pas danser le flamenco, ça a été un peu traumatisant. C'est au moment où, à l'adolescence, comme ça, justement, comme tu dis, on essaye de se fabriquer une image à laquelle s'identifier. Ne plus pouvoir m'identifier à cette image-là, ça a été un petit peu douloureux. Il fallait que je trouve à me refléter dans une autre image, en fait.
Toujours à propos de l'image, ce sera l'une de mes toutes dernières questions. Tu évoques ce moment de prépuberté où il y a une bande de filles à l'école, et tu dis jouer le rôle du petit mâle parmi les femelles. Tu emploies le terme de femelle. Et
j'avais trouvé une autre image identificatoire.
Et tu dis que ce qui a fait changer le rôle dans ce jeu de rôle, c'est non pas la survenue des règles, mais une question de taille.
Mmh. Oui, c'est vrai.
Tu dis cela. C'est très, oui, très, oui, étonnant pour le lecteur.
Oui. Bah, en fait, je ne sais pas si c'est pour tous les enfants pareil, mais je suppose que quand même, et il faut espérer que cette expérience est partagée par beaucoup, c'est que si on a été aimé quand même dans son enfance, on a eu en retour une image, on a reçu une image de soi embellie, forcément. Quel bel enfant vous avez là, disait-on à ma mère. Bon. Et donc cet enfant, il se persuade qu'en effet, il est le plus beau du monde. Et qu'ensuite, assez vite, quand même, il apprend, il découvre que, bah non, il est pas, d'abord, il n'est pas tout seul, et puis il n'est pas aussi beau qu'on lui a répété, et puis il se compare aux autres, et par lui-même, il se rend bien compte que, être brune, c'est peut-être moins bien que d'être blonde, par exemple. Enfin bon, je veux dire, c'est ensuite l'apprentissage de enfin, on doit apprendre à se défaire de toutes ces images très satisfaisantes qu'on nous a renvoyées de nous-mêmes. Et alors peut-être c'est pas la même chose pour les hommes et pour les femmes, que le narcissisme est pas le même, mais moi je sais qu'il a fallu que j'abandonne progressivement tous ces reflets satisfaisants de moi-même. Et alors que la question de la taille, par exemple, a joué. Il y a deux choses, par exemple, qui ont joué. Le fait de la taille, c'est-à-dire que jusqu'à un certain âge, j'étais très grande, comme ça arrive, et puis ça s'est arrêté. Et donc finalement, je suis pas si grande que ça. Bon, et le fait de changer de rapport d'échelle, si je puis dire, avec mes petites camarades, me mettait pas dans la même position de domination, par exemple. C'était moi qui me retrouvais dominée par les plus grandes, et donc peut-être, oui, dans une position plus féminine, entre guillemets, comme ça, dans une place plus féminine. Et l'autre petit traumatisme, c'est la découverte de la myopie. Parce que j'avais tellement investi dans mes yeux, c'était tellement important pour moi, mes beaux yeux hauts, comme elle a de jolis yeux, cette petite fille, etc., que le fait de me rendre compte que ses yeux n'étaient pas aussi performants qu'ils l'avaient été, ne voyaient pas aussi bien, ça a été assez traumatisant.
L'avant-dernière question. Tu racontes ton enfance, tu racontes ta petite enfance. Ce récit, tu l'as écrit alors que tes parents ne sont plus. À bien des égards, tu leur as écrit un tombeau aussi.
Mmh. Ouais, ça je m'en suis rendu compte. Oui. Alors, il se trouve, ça c'est la vie qui, la vie, la mort. Il se trouve que je suis une survivante de cette cellule de 5 qu'on évoquait. La grand-mère est morte, bien sûr, mais en effet, j'ai perdu d'abord mon frère, en fait, qui est mort dans un accident de voiture, et puis ensuite mes parents, ce qui était dans l'ordre des choses, quoique ils sont morts un peu jeunes.
Ta mère a 63 ans.
Ma mère, oui, je suis aujourd'hui plus âgée que ma mère au moment de sa mort. Et en plus, ma mère s'est suicidée, donc ça a été une mort dramatique. Et donc, c'est vrai que je me suis toujours un petit peu perçue comme une survivante de cette cellule familiale. Et un des plaisirs, parce qu'il n'y a pas que des déplaisirs dans l'écriture, on en bave, c'est difficile d'écrire, mais il y a aussi des plaisirs. Un des plaisirs, c'était quand même de les ressusciter. Prenez-moi le temps d'écriture de ce livre et de les ressusciter dans l'apaisement, forcément, parce que tous ces conflits qui les opposaient, qui m'opposaient à eux, sont évidemment retombés depuis bien longtemps, et pour cause. Et qu'en fait, je n'ai jamais, même beaucoup plus jeune, eu de ressentiment à l'égard de mes parents, de ma famille, même si de temps en temps j'estime qu'ils m'en ont fait baver. Mais bon, et donc voilà, j'étais contente. Ils ont quand même sacrément raté leur vie. Ils ont sacrément raté leur vie. Et c'est un peu sentimental ce que je vais dire, et je m'en excuse, j'aime pas trop ça en fait. Mais c'est une façon de rattraper cette vie ratée, et là encore, de la transformer, d'en transformer quelques fragments, quelques parcelles en un objet esthétique, quoi.
En ce qui me concerne, je trouve que ton livre, comme les autres, ne verse absolument pas dans le sentimentalisme, du tout.
Non, c'est là, maintenant.
Vraiment.
Oui. Je me laisse un peu aller.
Et juste pour faire écho à ce que tu viens de nous dire, je lis l'excipit de ton livre. Peut-être que tu réagiras. Les deux derniers paragraphes. Quand j'allais annoncer sa mort à Simone, c'est la mort de Louis, ton père, elle se trouvait hospitalisée à la Salpêtrière. Elle se lamenta dans mes bras comme une enfant, tout en m'appelant sa pauvre petite fille. Rentrée chez elle, 6 mois plus tard, elle enjamba, cette fois pour de bon, non pas la fenêtre de la cuisine, mais celle de la chambre sur cour. Elle avait 63 ans. À son enterrement, l'employé des pompes funèbres, cérémonieux, pria les personnes présentes de former un cortège derrière le corbillard. La proche famille devant. Tout le monde lui obéit, et il fallut que je me retourne pour me rendre compte qu'en effet, j'étais seul à l'avant. Écrire son enfance, c'est cela, c'est s'apercevoir qu'on est seul à l'avant.
Bon, en tout cas, je me suis retournée. Hein. Bon. Oui.
Ma dernière question, si tu le veux bien. Tu donnes dans ton livre, de mon point de vue, une très belle définition d'écriture. Page 236 pour mes étudiants. Tu écris ceci. Écrire n'est peut-être que cela. Éviter d'avoir à refermer le livre pour répondre à ceux qui vous rappellent à la réalité et poursuivre le fil de la fiction dans laquelle on est entré pour le tresser plus intimement avec les fibres de la vie.
Oui. Oui, moi j'ai le souvenir de cette enfance de grosse lectrice comme ça, et je le raconte dans quelques pages, qui faisait que je transformais mon quotidien en fait à partir de mes lectures, mais comme font tous les enfants, je transformais l'environnement modeste en un palais pour dire les choses comme ça simplement. Bon, et en fait je pense qu'écrire, c'est essayer de continuer ce tissage, quoi, entre le réel et le rêve, ou voilà, c'est un peu la même chose que je disais tout à l'heure en parlant de transformer la vie en un objet esthétique, quoi, en fait. Oui. Et on veut pas abandonner cette part de rêve. On veut continuer à la tisser avec le réel. La preuve, j'ai écrit ce livre. C'est vrai que c'est un récit, c'est ma vie, mais c'est ma vie transformée en un récit avec j'espère, une écriture bien, agréable à lire, des passages qui peuvent être drôles, pas simplement tristes. Bon, et en même temps, je suis là à en parler, et là, c'est la vie, quoi. C'est le réel, je suis avec vous. Donc, les choses se tissent comme ça. C'est ça qui... Que, J'ai envie de continuer à cette vie de petite fille, quoi, en fait, où les choses se tissaient entre elles.
Mesdames et messieurs, si vous en êtes d'accord, en votre nom à tous, je remercie vivement Catherine Millet pour sa générosité.
Mais c'est moi qui vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.